Les fermiers généraux viennent d'être obligés de faire un fonds de 24 millions, c'est-à-dire une avance envers le roi et un emprunt à l'égard du public. C'est pour chacun 600 000 livres à trouver. Je demande comment, dans un temps aussi misérable que celui-ci, on trouve si aisément de si grosses sommes, car enfin, qui est-ce qui prête à ces gens-là ? Extrait du journal du marquis d'Argenson, le 29 octobre 1740.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre précédente émission des fenêtres de l'histoire, j'ai essayé de vous présenter, de manière d'ailleurs incomplète au regard du temps imparti, l'organisation de la fiscalité d'Ancien Régime. Mais je voudrais aujourd'hui évoquer également la question de la perception, parce que organiser un système fiscal est une chose, mais le faire fonctionner, en particulier au travers de la perception, en est une autre. En fait, les impôts de la monarchie sont affermés à des financiers privés, ce qu'on appelle des partisans ou des traitants. C'est-à-dire que ces financiers prêtent tout de suite l'argent, le donnent à la caisse de l'État royal et se remboursent par la suite sur les populations. Donc il y a un versement immédiat d'une somme forfaitaire et un remboursement qui suit. Les fermiers ont un statut d'officier du roi et ils peuvent bien sûr, d'où l'intérêt, percevoir une somme supérieure à celle donnée à la monarchie. Finalement, le système de la ferme peut paraître avantageux pour les deux parties. D'une part, le roi apprécie le fait de recevoir de l'argent frais d'un coup et n'a pas à se préoccuper du détail de la perception. Quant au fermier, certes, il donne immédiatement à la couronne, mais il peut se réserver le droit, eh bien, s'il a prêté 2 millions de livres, de se rembourser 2 millions 400 000. Donc, il y a indéniablement un système qui paraît à la fois intéressant et qui permet de faire fonctionner la monarchie. Le problème, c'est que la monarchie va être finalement très liée à ses prêteurs. Le grand historien des finances royales, Daniel Dessert, a estimé même que ce système ligotait la monarchie et que finalement, Louis XIV, pour ne prendre que lui, était très dépendant de ses prêteurs qui pouvaient à tout moment rechigner à prêter et donc étrangler éventuellement la politique royale. Concernant justement cet affermage, on a essayé un peu de rationaliser l'ensemble. En 1598, le ministre de Henri IV, Sully, avait réuni les fermes de la région parisienne en 5 grosses fermes. Elles vont ensuite être réunies en 1664, en particulier pour rassembler toute la perception de la gabelle. Il y a ensuite des moments de crise où la monarchie hésite entre un système de rassemblement des fermes ou au contraire d'éparpillement. C'est le cas en particulier durant la période 1680-1726. Et puis en 1726, il y a le système de la ferme générale qui est définitivement adopté. Or, cette ferme générale est de plus en plus productive. 80 millions de livres en 1726, et puis à partir de là, on renouvelle tous les 6 ans la somme. 101 millions de livres en 1750, 152 millions en 1774, 123 en 1780. Donc, la ferme donne de plus en plus à la couronne. Mais c'est néanmoins insuffisant. Donc, il faut trouver d'autres moyens de percevoir de l'argent. Et c'est là où il va falloir inventer des postes qui vont être mis, si j'ose dire, aux enchères. C'est le système des offices. La monarchie va créer toute une série d'offices que vous achetez et il va y avoir, à partir de 1604, le don de ce qu'on appelle la paulette, du nom d'un financier de l'époque, qui permettait aux héritiers de récupérer l'office du père, moyennant une petite perception à la monarchie. D'autre part, vous avez également le fait que la monarchie va également s'endetter parce qu'elle va véritablement demander de l'argent avec un intérêt de la dette qui devient de plus en plus important tout au long d'ailleurs du XVIIIe siècle. C'est un problème qui donc va désorganiser la question des finances royales.
La fontaine était creuse, elle est tombée au fond.
La fontaine était creuse, elle est tombée au fond.
Par la passire, toi, je le sais, mon garçon.
Paille, 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 c'est l'hiver d'autant.
Par la passire, toi, je le sais, mon garçon.
Par la passire, toi, je le sais, mon garçon.
Me donnerez-vous la peine, vous retireront.
Paille, 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 c'est l'imago.
L'endettement, c'est une chose. Mais il va falloir aussi trouver quelques expédients. Alors, on va dédoubler les offices, on va augmenter des gages des officiers, mais ils vont payer une seconde fois leurs offices. Donc, il y a bien un problème de rentabilité du système fiscal de la monarchie. Alors, à partir de quand il va véritablement se gripper ? À vrai dire, le système a tenu de manière convenable jusqu'au début du XVIIIe siècle. En effet, il y avait indéniablement, à l'époque par exemple d'Henri IV, une stabilité fiscale qui faisait que la monarchie n'avait pas de dette. Mais avec, comme je l'ai expliqué la fois précédente, l'alourdissement lié à la guerre, les impôts vont devenir à la fois de plus en plus lourds et de plus en plus difficiles à percevoir, avec des résistances qui peuvent être des fois des résistances armées. Il y a eu, dans les années 1630-1640, de très nombreuses révoltes, comme par exemple dans notre région les Croquants du Quercy, qui sont des révoltes pour la plupart anti-fiscales. On se révolte contre l'impôt avec un slogan qui apparaît régulièrement dans le royaume, « Vive le roi sans la gabelle ». C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause la monarchie et le souverain, mais on remet en cause les impôts et en particulier ceux qui les perçoivent. Autre élément aussi, c'est que ces Quercy vont réapparaître durant la guerre de succession d'Espagne en 1707, au moment justement où la guerre se fait de plus en plus prégnante contre toute une coalition européenne. Les guerres de Louis XIV et même les guerres du XVIIIe siècle vont finalement alourdir de plus en plus le système. La guerre de succession d'Autriche, la guerre de 7 ans entre 1756 et 1753, et même la guerre d'Amérique sous Louis XVI, où quand la monarchie française soutient à partir de 1777-78 les insurgés américains contre la Grande-Bretagne. Bien sûr, il y a un intérêt politique et stratégique à affaiblir la présence britannique en Amérique, mais il est indéniable que cela va alourdir l'endettement de la monarchie française. Et puis, se pose une autre question, c'est est-ce que le système est parfaitement juste ? Parce que indéniablement, le système était basé sur le privilège. Alors, il faut bien s'entendre sur le privilège. Les ecclésiastiques, par exemple, ne payaient pas d'impôts officiellement, mais ils faisaient quand même partie de ceux qui payaient la capitation. Or, ils ont racheté la capitation, le clergé a racheté la capitation pour 24 millions de livres. Et puis, au cours du XVIIIe siècle, ils donnaient théoriquement tous les 5 ans ce qu'on appelait le don gratuit. Autre question qui se pose, est-ce qu'il ne faut pas que la noblesse paye également des impôts ? Mais il y a d'autres privilégiés. Je vous ai signalé que la taille était finalement peu payée par les villes. Donc, on peut estimer que beaucoup de villes du royaume ont des privilèges fiscaux en ne payant pas la taille, d'où le fait que cela reposait essentiellement sur les masses paysannes. Donc, véritablement, la question se pose, dans les années 1770-1780, sur la viabilité du système et est-ce qu'il ne faudrait pas aboutir à une réforme qui donnerait possibilité à tout un chacun, selon ses revenus, de payer l'impôt. C'est tout le débat qui va animer la convocation des États généraux en 1788. Parce que quelle est la motivation de Louis XVI quand, en août 1788, il convoque les États généraux qui n'avaient plus été convoqués depuis 1614, c'est de trouver un moyen de régler la question financière, la question de la dette. Et beaucoup de personnes estiment que de cette convocation va sortir l'égalité devant l'impôt. Or, en fait, vous le savez, ces États généraux qui vont se réunir à Versailles à partir de mai 1789 vont non pas tellement parler de la question fiscale, mais de plus en plus de donner une constitution au royaume, ce qui va faire entrer la France dans un système révolutionnaire.